Nous écoutons deux lectures bibliques. La première dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 3. La 15e année du gouvernement de Tibère, César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconitide, Lysianas, tétrarque de l'Abilène, et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe. La parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il se rendit dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de changement radical pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins raboteux seront nivelés, et tous verront le salut de Dieu. » Jean le Baptiste disait donc aux foules qui venaient pour recevoir de lui le baptême, « Vipère, qui vous a montré comment fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes du changement radical et ne commencez pas à vous dire « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Maintenant déjà, la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Les foules l'interrogeaient. Et que devons-nous donc faire ? Il leur répondait que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des collecteurs d'impôts aussi vinrent pour recevoir le baptême et lui demandèrent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur dit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi l'interrogeaient. « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, contentez-vous de votre solde. » Et comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient si Jean n'était pas le Christ, il leur répondit à tous « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de délier la lanière de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main, il va nettoyer son aire, il recueillera le blé dans sa grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple avec beaucoup d'autres encouragements, mais Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, femme de son frère, et au sujet de toutes les mauvaises actions qu'Hérode avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Et la suite d'ailleurs du texte, c'est le texte du baptême de Jésus par Jean le Baptiste. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7, à partir du verset 17, sachant que juste avant, Paul a dit à propos du mariage que pour certains qui ont un conjoint non-croyant, eh bien, c'est son conseil, c'est de pouvoir vivre cela dans la liberté, soit le conjoint non-croyant reste avec son conjoint, ou bien s'il désire partir, c'est aussi possible. À part cela, je reprends le texte, à part cette situation, que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage, tel qu'il était, quand Dieu l'a appelé. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Quelqu'un était-il circoncis quand il a été appelé ? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un était-il incirconcis quand il a été appelé ? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien. L'incirconcision n'est rien. Ce qui importe, c'est d'observer les commandements de Dieu. Que chacun demeure dans la condition où il était lorsqu'il a été appelé. Tu étais esclave quand tu as été appelé. Ne t'en soucie pas. Même si tu peux devenir libre, mets plutôt à profit ta condition. En effet, l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Vous avez été achetés à un prix. Ne devenez pas esclave des humains. Que chacun, mes frères, mes sœurs, demeure devant Dieu dans la condition où il était lorsqu'il a été appelé. Seigneur, ta parole est la vérité. Garde-nous, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Nous chantons le cantique indiqué, le cantique 404. Prions. Ô notre Dieu, qui nous donne la paix et la joie par Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, car tu es proche de nous, tu viens vers nous. Malgré nos tâtonnements, nos doutes si compréhensibles, notre endurcissement souvent, donne-nous au sein de ce monde que tu aimes de vivre chaque jour, l'aujourd'hui de ta présence. Que ta parole agissante en nous ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir suscité la justice, la paix, la joie de ton royaume. Frères et sœurs, je vous propose ce dimanche matin de cheminer à partir de ces deux témoignages, celui de Jean le Baptiste et de l'apôtre Paul. Alors bien sûr, ce sont des extraits de textes, des témoignages partiels, mais dans ce temps liturgique de l'Église de l'Avent, pour notre Église, essayons d'entendre ce qu'ils peuvent nous apporter. Ils sont déroutants, ces deux personnages, si je puis dire. Jean le Baptiste, c'est le premier témoin de Jésus en tant que Christ, celui qui va le baptiser, premier témoin de l'Évangile au commencement. Il annonce le Christ. Et malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous avons entendu dans le début de cet évangile, selon Luc, l'ancrage historique avec les responsables politiques, les préfets, les rois, etc., une autre époque. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, il reste pour nous une figure, je dirais, osons le mot, exemplaire. Peut-être pas à imiter, qu'est-ce que cela peut signifier, mais dans le sens où il nous appelle en tant que chrétien, à être cohérent, à changer de vie, à le montrer, à ne pas vivre sa foi par procuration et par conviction. Ce n'est pas parce que vous avez Abraham pour père, alors nous on pourrait dire parce que vous êtes de cette église ou d'un village des Cévennes, ou fils de la Réforme. N'est-ce pas, c'est vos fruits qui vont compter. Jean le Baptiste ne se prêche pas lui-même, il annonce un autre comme étant le Christ, l'envoyé de Dieu. Il va payer le prix de sa liberté, de son courage, en étant enfermé en prison où il sera exécuté. Après avoir posé la question à ses messagers, est-ce bien celui-là que nous devons attendre ou faut-il en attendre un autre ? Et les messagers répondent par tous les signes messianiques. Voyez, les lépreux sont guéris, les aveugles voient, les boiteux se relèvent et marchent. Donc, une figure exemplaire, radicale, et en même temps, dans le texte que nous avons entendu, peut-être très curieusement pour nous, pour certains d'entre nous, à ses interlocuteurs, notamment aux employés des impôts et aux militaires à qui l'on reprochait de faire le jeu de la puissance étrangère d'occupation. Il répond, que devons-nous faire ? À la question, que devons-nous faire ? Il répond par une sentence morale conventionnelle. Je cite, « Ne demandez pas plus, contentez-vous de votre salaire. » Ne changez pas au fond. Et puis l'apôtre Paul, lui qui a changé radicalement, qui a impulsé la plupart des premières communautés chrétiennes, tout en prêchant l'Évangile avec zèle et en payant également le prix, appelle à ne pas changer de situation. Je cite là encore, « Quand Dieu vous a appelé, écrit-il, vous viviez dans la situation que le Seigneur vous avait donnée. Donc, à part ce que je viens de vous dire, il s'agit du cas du croyant dont le conjoint n'a pas vécu le même parcours de foi, la même évolution, chacun doit continuer à vivre dans cette situation. » Alors, laissons-nous un peu troubler par ce précurseur du Christ et puis ce fondateur d'Église. Déroutants. Ils apparaissent à la fois comme ceux qu'ils sont, radicaux et conformistes, à la fois libres et soumis, à la fois, je dirais aussi, évangéliques et libéraux. Dans cette période de l'Avent, les Églises invitent tout un chacun à se préparer à accueillir à nouveau la bonne nouvelle de Dieu venue en Jésus-Christ. Et donc, pour ceux qui croient que cette bonne nouvelle en est une, et qu'elle est même la bonne nouvelle, la question de la condition chrétienne demeure toujours d'actualité. C'est une question de cohérence, de témoignage, de fidélité. Que devons-nous faire ? Qui sommes-nous ? Alors ce matin, je voudrais, pour cheminer avec cette question, qui je crois est toujours d'actualité pour les chrétiens, pour tous ceux qui cherchent un chemin de foi, je voudrais partager un troisième témoignage pour nous aider à être ce que nous sommes. Et ce sera à partir d'un extrait seulement, de la lettre à Diognète. Diognète, c'est un nom qui n'est pas forcément très connu. C'est une lettre d'un auteur inconnu que les spécialistes d'aujourd'hui estiment avoir été écrite dans les années 190 après Jésus-Christ, au début de notre ère donc, dans la ville d'Alexandrie. C'est une lettre qui n'a été découverte qu'au XVe siècle, qui a eu un certain impact dans les années, notamment 1950-1960, au moment de la constitution du Conseil œcuménique des Églises avec Wissertoft, de Vatican II et du combat de Martin Luther King, qui s'y réfère à plusieurs reprises. Ce n'est pas une parole d'évangile, ce n'est pas dans le canon des Écritures, comme on dit, mais il me semble qu'elle nous questionne et qu'elle peut vraiment nous édifier, dans le bon sens de ce terme « édifier ». Oui, c'est une lettre édifiante pour toutes celles et tous ceux qui cherchent à assumer le paradoxe de la condition chrétienne. Je cite, et vous pourrez donc la relire en prenant le texte, cet extrait qui est le chapitre 5 de cette lettre à la sortie. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Les chrétiens n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ce n'est pas à l'imagination ou rêverie d'esprit agité que leur doctrine doit sa découverte. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine humaine. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares, selon le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie, une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils partagent tous la même table, mais pas la même couche. Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. Ils aiment tous les hommes et tous les persécutent. On les méconnaît, on les condamne, on les tue et par là ils gagnent la vie. Ils sont pauvres et enrichissent un grand nombre. Ils manquent de tout et ils surabondent en toutes choses. On les méprise et dans ce mépris ils trouvent la gloire. On les calomnie et ils sont justifiés. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Ne faisant que le bien, ils sont châtiés comme des scélérats. Châtiés, ils sont dans la joie comme s'ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers. Ils sont persécutés par les Grecs. Et ceux qui les détestent ne sauraient dire la cause de leur haine. Fin de citation. Donc une lettre qui avait pour but de convaincre ses destinataires, des personnes cultivées, païennes, par païennes je veux dire n'étant pas chrétienne, ayant une autre religion, des personnes cultivées, païennes, d'embrasser la foi chrétienne, et aussi une lettre qui avait pour but de calmer les craintes de ceux qui se méfiaient des chrétiens, de la religion chrétienne. Et alors, pour dire à ses destinataires le sel de la condition chrétienne, l'auteur utilise des formules antithétiques. On en a compté 36, pas moins de 36. Mais il ne s'agissait pas pour lui de faire de la littérature pour le plaisir esthétique de ses lecteurs ou auditeurs, mais d'interroger la perception spontanée que l'on peut avoir des chrétiens, et puis d'interpeller existentiellement des personnes étrangères à la foi chrétienne. Et donc nous voici avec cette double appartenance. Et il m'a semblé que c'était au fond un des textes qui pouvait nous permettre de mieux comprendre à la fois ce Jean le Baptiste et puis l'apôtre Paul, un certain nombre de textes bibliques, et au fond la condition chrétienne. Les chrétiens, non pas par choix mais par nécessité, sont dans une tension, dans un paradoxe entre le monde auquel ils habitent et une république spirituelle, pour reprendre les mots de cette épître à Diognète, la république spirituelle à laquelle ils appartiennent. Alors on retiendra notamment, mais le texte je trouve se passe de tout commentaire, mais tout de même, on retiendra notamment les reproches qui sont faits aux chrétiens, qui sont réfutés. Non, les chrétiens ne sont pas sectaires. Les chrétiens sont fidèles à leurs engagements, ils sont loyaux, les chrétiens sont responsables. Ils sont soumis aux lois de la cité et en même temps, ils obéissent à des lois extraordinaires. Ils ne sont pas exemptés des lois civiles. Comme tout un chacun, ils y sont soumis. Et en même temps, je cite de nouveau le texte, leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. Voilà peut-être ce à quoi nous sommes appelés. La fin de cette lettre n'élude pas un conflit possible de loyauté entre les deux appartenances, entre cette république spirituelle et puis la réalité du monde dans lequel nous vivons. Alors c'est un conflit de persécution, et vous avez peut-être senti que le ton changeait. Une situation de persécution que nous ne connaissons pas en France depuis fort longtemps, mais outre que c'est la situation de tant d'hommes et de femmes dans le monde qui luttent pour la dignité humaine, cela met en lumière une certaine hiérarchisation qui peut guider le chrétien dans des choix ultimes de vie. Et ici, il me semble que cet épître à Diognète est au fond une sorte de commentaire de l'apôtre Paul qui l'a influencé, puisque l'auteur reprend les tribulations liées au ministère de l'apôtre. Je cite l'apôtre Paul quand il écrit « Nous sommes inconnus et pourtant bien connus, nous sommes moribonds et pourtant nous vivons, nous sommes châtiés sans être exécutés, attristés mais toujours joyeux. » Ça, c'était la devise de Van Gogh. Attristé, mais toujours joyeux, pauvre et faisant bien des riches, n'ayant rien, nous qui possédons tout. » Vous voyez la filiation qu'il y a entre cette épître à Diognète à partir de l'apôtre Paul et pour nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans une situation de persécution, nous prions pour ceux qui sont persécutés, qu'ils soient chrétiens ou d'une autre religion, qui sont persécutés à cause de la couleur de leur peau, à cause de toutes sortes de racisme. Mais nous restons aussi avec cette question par rapport à nos loyautés entre nos deux appartenances. Alors Paul dans la première partie de son ministère au moins, avait la conviction que Jésus, le Christ, allait revenir physiquement. Et ce retour du Christ accomplirait la fin des temps avec l'avènement du royaume de Dieu. Et c'est cette conviction qui a forgé sa perception de la réalité et du coup l'éthique qu'il développe. La vie quotidienne est marquée par la transformation, la transfiguration du monde par Dieu lui-même. Les chrétiens vivent dans ce monde, ils sont appelés à y vivre en Christ, d'où cette éthique circonstanciée, cherchant à aller à l'essentiel. Les temps sont courts, écrit-il. Donc, vivez comme que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient pas réellement, car ce monde tel qu'il est formé passe. Oui, ce monde passe. Nous sommes-nous plutôt maintenant inquiets pour la sauvegarde de la planète, pour des questions d'environnement, de changement climatique ou autre, aussi perturbé par, toute forme de totalitarisme. Mais nous ne sommes plus dans cette attente du retour physique du Christ. Et donc, notre situation est à la fois différentes et semblables. Nous annonçons la venue du Christ, non pas à la façon d'un pouvoir terrestre à venir, mais d'une invitation à chacun à l'ouvrir son cœur, à vivre en communion, à transmettre sa bénédiction. Donc la situation est différente, mais en même temps cette éthique paradoxale de la double appartenance que je voudrais vous laisser ce matin. Il me semble que c'est bien ce à quoi nous sommes aussi appelés à vivre. Parce que la foi chrétienne, voyez-vous, frères et sœurs, n'est ni une soumission, mais elle n'est pas non plus une évasion de ce monde que Dieu a tant aimé, dans lequel il est venu en Jésus-Christ, ce monde qui nous est décrit là par ses auteurs bibliques avec tellement de précision historique, ce monde dans lequel nous sommes. Ce monde où nous respectons les lois, dont nous respectons les lois quand elles sont démocratiquement établies, quand elles sont pour le bien commun. Et en même temps, nous sommes fondés sur cette république spirituelle, sur l'Évangile, sur la bonne nouvelle. Et c'est dans l'accueil et le dialogue du Dieu de Jésus-Christ avec ce que nous sommes dans la situation où nous sommes, que nous pouvons cheminer. Au fond, comment dire autrement qu'il s'agit là d'une vraie liberté ? La liberté, ce n'est pas celle où l'on croit être au-dessus des autres, au-dessus des lois de tout un chacun qui régissent la vie de la communauté, au-dessus de la morale, au-dessus de Dieu même. La vraie liberté, elle est d'être ce que nous sommes, comme nous avons été appelés, et d'être vraiment libre parce que libéré du souci de devoir se conformer ou ne pas se conformer. L'essentiel n'est pas dans le conformisme, bien sûr, mais l'essentiel n'est pas non plus de lutter a priori contre tous les conformismes. Mais c'est bien avec nos prochains, au quotidien, de vivre dans cette profonde liberté du chrétien, de celui qui fait la part des choses entre ce qui est essentiel et ce qui est le bien commun de toute la communauté. Alors cela peut nous paraître impossible comme idéal, invivable même, conjuguer les réalités du quotidien et la formidable espérance de l'amour et de la foi en Dieu. Est-ce que ce n'est pas une chimère ? C'est une question que je me suis posée en relisant, en redécouvrant récemment cette lettre à Diognète. Et en même temps, parce qu'il me semble qu'elle est en cohérence, en prolongement, et nourrie par le témoignage du Baptiste, de Jésus le Christ et de l'apôtre Paul. Il me semble aussi parce que l'histoire de l'Église avec ses témoins nous en a fourni bien des signes, que si nous faisons de cette double appartenance, non pas un idéal à poursuivre, mais une réalité à vivre, alors se donne à nous à vivre justement dans notre chair, dans notre condition, cette formidable annonce, nouvelle, bonne nouvelle, un Dieu qui vient en Christ avec nous à part entière. Il est venu à nous, soyons frères et sœurs avec lui, chaque jour, quelles que soient les circonstances où que nous soyons. Amen.